Radio Kapi. Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima. COP26 sur les réchauffements climatiques à Glasgow en Écosse, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi est revenu dans son adresse ce mardi sur l'importance des forêts du bassin du Congo dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et puis cette nouvelle pas du tout bonne pour les habitants de Bambou en Ituri. Médecins sans frontières suspend ses activités dans cette localité à cause de l'insécurité. Cette décision est consécutive à l'attaque jeudi dernier d'une équipe de cette organisation humanitaire par des hommes armés qui ont blessé deux de ses agents. Enfin, nous recevons peu avant la fin de cette édition du journal Tims Mulungulungu, expert en droit minier et auteur de l'ouvrage intitulé « Code minier commenté et annoté ». Il s'exprime sur les innovations positives et négatives du code minier révisé de mars 2018. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé ce mardi 2 novembre à Glasgow dans le cadre de la COP26. Il est revenu sur l'importance des forêts du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a cependant évoqué aussi la déforestation qui menace ces forêts. Entre-temps, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Corée, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, les États-Unis, l'Union européenne et le Fonds Bezos pour la Terre manifestent leur engagement à l'égard du bassin du Congo et annoncent une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025. Ce fonds vise à soutenir les efforts des pays du bassin du Congo et les résultats ambitieux dans la région pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète. Vous aurez donc des amples détails sur l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans nos prochaines éditions. Alors, au deuxième jour des travaux de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow, capitale économique du Royaume-Uni, où l'on note une forte présence de la délégation des officiels et acteurs de la société civile œuvrant dans le secteur de l'environnement en RDC, René Ngongo, vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, Océan en sigle, plaide pour la mobilisation des ressources pour la préservation du deuxième poumon de la planète qui est la République démocratique du Congo. Il fait cette déclaration au micro de Tati Mapoko.
Nous nous présentons comme deuxième poumon de la planète et un poumon pour le préserver, il faut des moyens. Il faut des moyens pour aider les pays à gérer durablement ses ressources, surtout les forêts, éviter une exploitation des tourbières et pour cela il faut des alternatives. Parmi d'autres alternatives que le pays va soutenir, c'est l'accès à l'énergie. Vous savez que là aussi nous avons un potentiel immense en termes des barrages disponibles, dont Inga qui peut offrir au-delà de 44 000 mégawatts, donc capable d'électrifier une bonne partie de l'Afrique. Et ici, je n'entre pas dans les détails avec les gaz méthane au lac Kivu. Donc, il y a possibilité, avec beaucoup plus de moyens, de réduire les émissions liées à l'utilisation des énergies.
Pendant ce temps, les catastrophes naturelles continuent sur le terrain. Plus de 500 hectares des champs sont perdus à cause des inondations qui perdurent dans les territoires d'Isangi, dans la province de la Tshopo. Selon André Kangaela Kutuaiti, propriétaire d'une plantation de cacaoyers qui livre cette information à Radio Kapi, cette situation va provoquer une famine puisque toutes les cultures sont détruites par les eaux. On écoute André Kangaela, joint par Alain Irung.
Nous avons perdu plus de 500 hectares de champs avec de manioc, de culture de maïs, de niébé, ouvigna, des arachides qui sont sous eau suite aux pluies diluviennes et aux inondations qui perdurent. Vous prenez à partir de Yelenge, vous traversez la rivière Lindi à partir de Yelenge, en partant vers Isangi, au centre du territoire. Nous, nous sommes le groupement Yawenda et le groupement Yelongo, et nous subissons déjà ces problèmes, sans compter ce qui s'est fait à Okadie et à Likandianongi. Vraiment, il y a des champs qui sont sous inondation, sous eau, et nous sommes certains que les jours qui suivent, donc le mois suivant, nous aurons des sérieux problèmes de produits alimentaires parce que nous serons en crise, d'autant plus que les productions sont en train de se détruire sous les eaux.
Nous le disions au sommaire, en Ituri, l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, suspend ses activités en faveur des milliers de personnes composées essentiellement des déplacés des guerres dans la zone de santé des bambous en territoire des Djougou. Cette décision est consécutive à l'attaque jeudi dernier d'une équipe de cette organisation humanitaire par des hommes armés qui ont blessé deux de ses agents. L'association culturelle Lori, qui regroupe les communautés locales, s'inquiète de cette mesure qui, selon elle, aura de graves conséquences sur la population victime des atrocités des groupes armés. Isaac Remoyopé.
Selon les communiqués de MSF, l'ONG appuie 3 hôpitaux généraux, 12 centres de santé, 4 postes de santé et 32 sites de soins communautaires dans les zones de santé de Drodro, Nizi et Ngoumou dans les territoires de Djougou. Cette intervention consiste à la prise en charge des maladies pédiatriques, de la malnutrition, du paludisme, des violences sexuelles et de la santé mentale. Des milliers d'habitants de ces entités bénéficient des services de cette organisation dans cette zone où tous les humanitaires se sont presque retirés à cause de l'insécurité. L'association culturelle Lori, qui regroupe les membres des communautés locales, redoute déjà les conséquences de cette mesure sur la population, dont de nombreux habitants manifestent des symptômes de certaines maladies et de malnutrition. Cette structure condamne fermement l'attaque contre les véhicules de l'ONG MSF. Jean-Marie Ndiaza, vice-président de Lori.
On est en train de projeter les conséquences. Des gens, la population avait déjà des difficultés pour accéder aux soins. Les gens sont confinés à la procure de bambou dans la brousse, les gens ne sortent pas. Si MSF pense c'est plus d'un mois sans assister la population. Ça va être dangereux pour la population. Nous recommandons d'avoir pitié de la population.
Signalons qu'en juin dernier, MSF avait déjà exprimé son indignation face à la destruction et au pillage de l'hôpital général de Boga, construit et équipé par cette organisation Bounia. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Une autre crainte en matière de la santé, c'est ce que certains responsables des structures sanitaires privées éprouvent à Beni à cause des grèves des infirmiers sur la protection sanitaire des enfants. Le cas pour les enfants qui sont nés pendant cette période de grève et aussi ceux qui sont nés depuis le début de cette année. Plusieurs d'entre eux risqueraient de manquer des premiers vaccins au risque de les exposer aux maladies respiratoires et autres. C'est la crainte du docteur Gisèle Kilomba de la clinique Ma Famille de Beni. Elle s'exprime ici au micro de Marc Maroufimbo.
C'est malheureux, hein? Il y a des enfants qui sont venus avec des maladies bronchiques là. Quand nous avons fait des clichés radio, nous avons découvert que ces enfants ont commencé à développer la TBC et on a soumis. Curieusement, quand on a donné les antituberculés, les enfants évoluent bien. Vous voyez la conséquence de ne pas vacciner les enfants à temps. Malheureusement, notre contrée, nous avons souffert. On a fait presque 10 mois sans vaccin. Je déplore déjà cette situation pour les enfants qui sont nés depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de septembre, je peux dire. Bon nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés à la première période de leur vie. Et ça les expose déjà à attraper certaines maladies respiratoires. Le calendrier vaccinal est de rigueur. Là, vraiment, j'appelle aux parents qui ont des bébés et même nos centres de santé, comme ils ont commencé à distribuer encore les vaccins, de circuler dans tous les hôpitaux pour disponibiliser les vaccins là pour les enfants.
Autre nouvelle, et on parle sécurité dans cette édition du journal, en territoire de Massissi, le général autoproclamé Eli Kapitula Bali Kafa, porte-parole de mouvement APCLS et adjoint de Janvier Kalahiri, s'est rendu ce lundi au FRDC à Kichanga avec une trentaine d'hommes et 24 armes. La cérémonie s'est déroulée devant le commandant des opérations Sukula 2, le général Mweu Evariste. La population de Bachali Mokoto a salué cette édition et souhaite voir son titulaire Janvier Kalahiri se rendre aussi afin de permettre le retour de la sécurité dans leurs milliers, mais aussi des milliers de déplacés en errance dans leurs villages respectifs. Sifa Maguru.
Dans sa déclaration devant le commandant des opérations Sokola 2, ce chef milice de l'APCLS a dit s'être rendu volontairement pour répondre à l'appel du chef de l'État à déposer les armes avant de promettre la reddition de son titulaire Janvier Kalahiri dans les tout prochains jours. Un motif de satisfaction pour la population de Kichanga qui a également assisté massivement à cette cérémonie. Témoignage de Tobiloa Kiokahambu, président de la société civile de Bachali.
C'était un grand mouvement de la population dans les ronds-points pour voir ces éléments. On nous avait présenté à peu près 30 ans des jeunes des APCLS accompagnés du général Eli, les porte-parole. C'est un symbole que la population est en train de louer. Ça pourra vraiment apporter la paix dans la société de Bachali.
Ces combattants ont quitté Massissi hier pour rejoindre leurs collègues qui attendent le processus PDDRCS dans les centres de cantonnement de Romanga. Gabo, a précisé le coordonnateur provincial ad intérim de ce programme. Il affirme aussi collaborer avec les FARDC pour l'accueil et la prise en charge de ces combattants en attendant les débuts effectifs du processus de démobilisation. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Et puis cette information, dans la province de la Tchopo, la SNEL a réceptionné hier du matériel du groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique en provenance de l'Ikassi dans le Haut-Katanga. Ce matériel avait été expédié le 3 septembre dernier à la télé de la GKMine pour les reconditionnements après que le groupe numéro 3 est tombé en panne. Le point avec Jacques Munkonkole.
Le matériel réceptionné hier avait été déclaré défectueux lorsque la centrale hydroélectrique de la Tchopo est tombée en panne le 20 août dernier. En réceptionnant le matériel en provenance de l'Ikassi, le directeur de la SNEL Région Nord a annoncé la venue à Kisangani de ce mardi d'une équipe pour appuyer les ingénieurs électriciens locaux de son entreprise pendant les travaux de réinstallation. Alphonse Kitambalatabou profite de cette occasion pour rassurer ses clients de la mise en service du groupe numéro 3 d'ici la mi-novembre en cours, à moins qu'il ne soit trahi par les caprices techniques. Si ce groupe est réhabilité, sans nul doute, la production électrique pourrait passer de 2 MW actuellement à 6 voire 8, de quoi réduire un tant soit peu le délestage dans la ville dont les besoins sont estimés à environ 40 MW. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et direction au Katanga, précisément dans Lubumbashi, pour parler des longues files d'attente qui sont observées depuis le lundi dans les différentes stations-service. Ceci est la conséquence de la pénurie de carburant chez plusieurs importateurs. Du coup, les prix de course sont revus à la hausse, Jean Gandou, par certains chauffeurs aux grandes dames de la population.
Plusieurs stations-service ne vendent pas de carburant depuis ce lundi. Nombreuses d'entre elles sont parmi les 19 entreprises pétrolières frappées par les mesures administratives prises par la DGDA à la demande de l'Inspection Générale de Finances. D'après les sociétés pétrolières, la DGDA a verrouillé leurs numéros d'identifiants fiscaux, ce qui fait que les camions transportant les carburants n'ont pas franchi la frontière depuis une dizaine de jours. Et c'est le samedi dernier qu'une solution a été trouvée, après l'octroi par le ministre des Finances d'un moratoire de 3 mois aux pétroliers sur les 12 qu'ils ont sollicités, en vue de leur permettre d'éponger les contentieux qu'ils ont avec la douane à la suite du rapport fait par l'IGF et dont les entreprises pétrolières n'ont toujours pas accepté les conclusions faisant état de la fraude et de la contrebande dans l'importation des produits pétroliers. Conséquence, ce sont des longues files d'attente qui s'observent devant les stations-service qui sont encore opérationnelles. D'autres pétroliers, bien que disposant de carburant, ne veulent pas vendre, estimant qu'ils travaillent à perte parce que d'après eux, à ce jour, sur le marché international, le prix du baril est en hausse pendant que sur place, c'est l'ancienne structure des prix qui est en application. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, le premier ministre destitué Abdallah Hamdok a déclaré que la libération des ministres et le rétablissement du gouvernement civil pourraient ouvrir la voie à une solution dans le pays. Assigné à résidence depuis le coup d'état militaire du 25 octobre dernier, le premier ministre déchu s'est exprimé lors d'une réunion avec les ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Norvège, selon le ministère de l'Information, resté fidèle à son gouvernement. Lundi, l'avocat des dirigeants civils arrêtés Kamal al-Jizouli a indiqué qu'ils étaient toujours introuvables. Depuis 7 jours, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues du pays pour demander le retour d'un gouvernement civil. Mais au lendemain d'une répression meurtrière samedi, les grandes villes du pays sont désertées. Les commerçants ainsi que les banques soudanaises ont également fermé les portes en signe de désobéissance civile.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Tim Mulungu Lungu, expert en droit minier et auteur de l'ouvrage intitulé « Code minier commenté et annoté ». Il s'exprime sur les innovations positives et négatives du code minier révisé de mars 2018. Le professeur Tim Mulungu Lungu s'entretient ici avec jeudi Daniel Kachama. Suivez.
Monsieur Tim, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé d'abord la révision du code minier, la révision qui a eu lieu en 2018?
Il faut dire que les impératifs de l'économie nationale avaient conduit le gouvernement de la République démocratique du Congo à initier la loi pour modifier le code minier de 2018. 2.
Quel changement contient ces nouveaux codes miniers?
La loi du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi du 11 juillet 2002, contient beaucoup d'innovations, dont certaines constituent des avancées et d'autres de recul d'après mes analyses. S'il faut prendre les points positifs ou les avancées, ce que moi j'appelle les avancées, on peut prendre le cas de la hausse du taux de la redevance minière. Parce que avant la modification du code minier, les métaux non ferreux, par exemple, étaient taxés à 2%. Aujourd'hui, le taux est fixé à 3,5%. Si vous prenez les métaux précieux, dont le taux était à 2,5%, aujourd'hui, il est fixé à 3,5%. Les pierres précieuses, dont le taux était à 4%, aujourd'hui, le taux est fixé à 6%. Il y a une autre catégorie des substances minérales dites stratégiques qui comprend le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite, communément appelée le coltan, dont le taux aujourd'hui est fixé à 10%. Dans le cadre des avancées, on peut parler aussi de l'élargissement des acteurs assujettis à la redevance minière. Avant la modification du code minier, seul le titulaire du permis d'exploitation était assujetti à la redevance minière. Avec la modification du code minier, d'autres acteurs, d'autres opérateurs miniers sont également assujettis à la redevance minière. Si nous devons prendre des cas que moi je considère comme des reculs, je peux prendre le cas de l'exclusion des personnes physiques des opérations minières. Avant la modification du code minier, les personnes physiques, comme vous et moi, le législateur nous avait permis de détenir un titre minier, de faire de l'exploitation semi-industriel ou industriel. Mais avec la révision du code minier,
aujourd'hui ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. La seule opportunité qui est offerte aux personnes physiques, c'est l'exploitation artisanale. Un autre point que moi je qualifie de recul, c'est la possibilité de déroger aux règles établies dans le code minier en matière fiscale. Avant la modification du code minier, le législateur avait apporté une certaine uniformité dans les conditions d'opération des projets miniers. Avec sa modification, si le code minier met fin au régime conventionnel, mais crée en même temps les conditions d'une application différenciée des dispositions fiscales. Avec la loi du 9 mars 2018, cette loi permet des exceptions en matière fiscale. C'est ainsi que l'alinéa 3 de l'article 220 du Code minier révisé autorise le Premier ministre à accorder un certain nombre de mesures incitatives à l'endroit des provinces souffrant des déficits d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières. Cet état de choses, comme vous pouvez le constater, ouvre une brèche que les sociétés minières peuvent utiliser par un lobbying au niveau provincial ou directement auprès du Premier ministre pour obtenir des exonérations fiscales.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement positif, surtout pour les populations qui vivent dans ces provinces où l'on exploite les minerais?
La population congolaise d'une manière générale et les communautés locales d'une manière particulière vont ressentir les retombées de la réforme lorsqu'on aura finalement mis fin à la fraude de l'exploitation des ressources minérales en République démocratique du Congo. Il faut aussi,
c'est parmi les grands défis.
C'est parmi les grands défis qu'il faut relever. Le gouvernement du Premier ministre, l'actuel, devrait faire beaucoup d'efforts pour éradiquer la fraude. C'est lorsqu'on aura maîtrisé ce terrain, on peut avoir bon espoir que le secteur des mines aura finalement des retombées directes sur la vie quotidienne de la population.
Même sur le budget de l'État.
Tout à fait. Et là aussi, il faut dire que il faut régler le déficit institutionnel des administrations chargées de la récolte de la redevance minière. Il faut aussi renforcer les capacités de services comme la DGI, la DGRK, qui sont là pour appliquer la loi et qu'on essaie de boucher, comme j'ai dit, on arrête la fraude. On peut espérer le secteur de mines aura des retombées sur l'économie nationale du pays.
Monsieur Chims Mulungulungu, professeur de droit, expert en droit minier, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Willem Lungamba, coordonnée par Noëlla Luzitu sous la supervision de Alain Irung. Était à la présentation Jacques-Yves Molima Aouta, Missoma Pombadoua. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur Radio Okapi.